Cette émission est une rediffusion. CFAQ.
Ça part ici.
Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3
CFAQ.
Ça part ici.
Rebonjour à tous et à tous. Il est actuellement 9h47 sur les ondes de la CFAQ, bientôt 48 d'ailleurs. Et je suis présentement accompagnée de Romane qui est là pour nous faire sa chronique du jour chaque mardi. Bonjour Romane.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va super, merci.
Bah écoutez, voilà, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport entre les hommes et leurs animaux domestiques. Donc l'idée m'est venue car l'autre jour, je suis tombée sur une publicité pour un spa hôtel pour chiens ici à Sherbrooke. Et ça m'a semblé avec honnêteté complètement fou. Alors je me suis demandé, mais d'où venait ce besoin de bichonner nos animaux de compagnie ? Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui il existe une série, une quantité de services qu'on pourrait croire réservés aux humains et qui sont pourtant destinés à nos petites bêtes. On a donc des coiffeurs pour chiens, des pâtisseries pour chats, des séances physiothérapie, des parcs d'attractions canins, des hôtels de luxe avec massage relaxant et même des services de garde façon garderie enfant. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement l'originalité de ces offres, c'est le fait qu'elles rencontrent un vrai public. On ne crée pas un spa pour chiens juste pour rigoler entre amis. S'il est là, c'est qu'il y a une demande. Et cette demande, elle dit quelque chose de nous, de notre époque, de notre rapport à l'affection, aux soins et aussi à la solitude. Historiquement, les animaux domestiques n'ont pas toujours occupé cette place très intime. Pendant longtemps, ils étaient surtout considérés comme utiles. Le chien gardait la maison ou le troupeau, le chat protégeait les réserves de nourriture en chassant les rongeurs. Et même si on s'attachait à eux, ce lien n'avait rien à voir avec les relations fusionnelles que l'on observe parfois aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nos animaux sont presque des membres de notre famille. On fête leur anniversaire, on leur parle comme à des enfants, on poste leurs photos d'eux sur des réseaux sociaux, on leur achète des cadeaux à Noël. Donc voilà, on est très loin du chien gardien de troupeau. Donc je me suis un peu renseignée sur le sujet et j'ai vite trouvé quelques petites informations. Donc premièrement, il y a une étude de l'Université de la Colombie-Britannique qui montre que plus de la moitié des propriétaires considèrent que leur animal est un confident privilégié. Une personne à qui l'on raconte sa journée, ses tracas, ses projets. Une présence stable, réconfortante, silencieuse, mais bien sûr toujours attentive. Et cela rejoint quelque chose d'assez profond. Parce qu'un animal ne juge pas, ne contredit pas, ne vous laisse pas en vue dans une conversation. Non, il vous accepte tel que vous êtes. Et dans un monde où l'on se sent parfois débordé, stressé ou un peu isolé, cette présence-là a vraiment une valeur immense. En psychologie, on parle aussi d'animaux comme figure d'attachement. On emprunte ce terme aux théories de l'attachement qui décrivaient au départ un lien entre enfants et parents. Et des travaux récents ont montré que beaucoup de propriétaires utilisent leur animal comme base de sécurité émotionnelle. On se tourne vers lui dans les moments de stress, on cherche sa présence comme on chercherait un peu celle d'un proche. Des études montrent aussi que certaines personnes se disent plus attachées à leurs animaux qu'à certains membres de leur famille. Et que le style d'attachement humain, par exemple anxieux ou sécurisant, se retrouve parfois dans la manière dont on s'attache à son chien ou à son chat. Dit comme ça, en fait, on comprend mieux pourquoi certaines personnes sont complètement dévastées quand malheureusement elles perdent leur animal. Il ne s'agit pas juste d'un chien, il s'agit d'une figure d'attachement en fait à part entière. Des chercheurs ont montré que ce lien ne joue pas seulement dans la tête mais aussi dans le corps. Quand on caresse un chien ou un chat, on observe directement une baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress, et une hausse de l'ocytocine, que l'on appelle parfois l'hormone du lien. Des études menées sur des duos humains-chiens montrent que l'ocytocine monte chez les deux pendant l'interaction et que la pression artérielle du propriétaire a tendance à baisser. C'est en fait le même mécanisme que lorsqu'on fait un câlin à un autre humain. Le corps enregistre la relation avec l'animal comme une forme de contrat social sécurisant et ça explique en grande partie pourquoi on se sent souvent plus calme après 5 minutes passées à flatter son chien sur le canapé. Les psychologues ont un mot pour décrire cette relation, ils parlent de soutien social non humain. C'est un concept en fait étudié depuis les années 80 et l'idée est toute simple. Certains animaux peuvent jouer un rôle similaire à celui des humains dans notre équilibre psychologique. Ils créent un sentiment d'appartenance, réduisent l'anxiété et apaisent le système nerveux. Plusieurs recherches montrent que caresser un chien ou un chat fait baisser la pression artérielle et régule le rythme cardiaque en quelques minutes. Et ce n'est pas du tout anecdotique, non. C'est vraiment vrai, notre corps réagit. Bon, maintenant, il y a un autre versant de la question. Jusque où va-t-on dans cette projection humaine sur nos animaux ? Est-ce que parfois, on ne leur impose pas nos propres besoins plutôt que les leurs ? Le chien en bottine pailletée pour se promener 30 secondes sur le trottoir sec, on peut ne pas toujours comprendre. Aujourd'hui, on veut les protéger, oui, mais on veut aussi et surtout qu'ils soient mignons, photogéniques, instagrammables. Et ça crée un rapport ambivalent entre amour sincère et projection narcissique. Le phénomène a un nom scientifique, on parle d'anthropomorphisme. C'est le fait, en fait d'attribuer aux animaux des émotions humaines ou des attentions humaines. Et c'est un réflexe plutôt universel. Une étude de l'université de Chicago a montré que plusieurs personnes se sentent, quand elles se sentent seules, en fait, elles ont tendance à projeter des états mentaux humains sur leurs animaux. Cela crée un lien fort, mais cela peut aussi brouiller la perception des besoins réels de l'animal. Certains chiens n'aiment pas les câlins et certains chats n'apprécient pas d'être pris en photo 20 fois par jour. Pourtant, on interprète leur comportement à travers nos propres prismes émotionnels. Pourtant, ce phénomène dit quelque chose de beau. Il montre que notre société met de plus en plus de valeur sur le soi. Le soi aux humains, mais aussi le soi aux vivants dans son ensemble. On voit d'ailleurs dans les maisons de retraite, dans certaines écoles ou encore auprès des personnes vulnérables, la présence d'animaux est vraiment une source de réconfort. Des programmes de zoothérapie ont même montré que les chiens peuvent réduire l'agitation de personnes atteintes d'Alzheimer ou encore encourager la communication chez des personnes autistes. Des scientifiques se penchent depuis longtemps sur nos liens avec les animaux et lors d'une conférence à l'UQAM, l'historienne Valérie Chaussigaut a rappelé que tout commence il y a bien longtemps avec la domestication du loup gris devenu chien. Notre tout premier compagnon fidèle depuis 25 000 ans et ce n'est pas rien. Cette domestication n'a pas seulement transformé l'animal, elle a aussi changé nos sociétés humaines. Quand les grands herbivores ont été domestiqués comme les moutons ou les vaches, les humains sont devenus plus hiérarchisés. Les troupeaux étaient vus comme des richesses. Et certains chercheurs y voient même l'une des origines du capitalisme. Et puis il y a une autre petite histoire que j'adore, celle du chat. Alors que le chien, lui, il se décline dans toutes les tailles et toutes les formes possibles, le chat, lui, présente beaucoup moins de variations. Certains spécialistes vont même jusque dire que le chat n'est pas vraiment domestiqué. Il serait en fait dans une zone grise. Et si vous avez déjà essayé d'appeler un chat qui vous ignore en vous tournant le dos, vous savez très bien que ce n'est peut-être pas complètement faux. Mais revenons à nos relations actuelles avec nos petites bêtes. On a l'impression qu'elles nous apportent un soutien inconditionnel. Pendant la pandémie, on a beaucoup entendu que les animaux nous avaient aidés à tenir le coup. Une sorte de présence réconfortante dans les moments difficiles. Pourtant, la psychologue Catherine Amiot, elle aussi à l'UQAM, nuance tout ça. Elle rappelle qu'une grande étude menée pendant la pandémie a montré que près de 70% des propriétaires avaient aussi connu un souci lié à leur animal. Un stress en plus d'un réconfort. Au Québec, par exemple, il était devenu très difficile de consulter un vétérinaire. Les délais s'allongeaient, les stocks de nourriture connaissaient parfois des ruptures. Et donc, avoir un animal demande de l'énergie, du temps et surtout de l'argent. Et quand tout va mal, ce n'est pas forcément simple. D'ailleurs, les études sur le bien-être lié aux animaux ne vont pas toutes dans le même sens. Certaines montrent que les animaux améliorent notre morale, oui, d'autres n'y voient aucun rien, et d'autres encore suggèrent une légère baisse du bien-être chez certains propriétaires. En réalité, tout dépend de paramètres très concrets. L'âge, par exemple. Les enfants et les personnes âgées tirent souvent plus de bénéfices de la présence d'un animal. Les ressources disponibles jouent aussi un rôle important. Si la santé ou la situation financière d'une personne est fragile, adopter un animal peut devenir un stress supplémentaire. Et alors, il y a une autre petite idée amusante que des chercheurs ont étudiée. C'est en fait la compatibilité des personnalités entre le propriétaire et l'animal. Un peu comme dans un couple. Si les deux se ressemblent suffisamment dans leur rythme ou dans leur tempérament, la relation sera plus harmonieuse. Et on en tire donc plus de bienfaits. On peut aussi se demander qu'est-ce que tout ça signifie pour l'animal lui-même. Là aussi, des études apparaissent. Certains montrent que les chiens appartenant à des célibataires auraient une meilleure qualité de vie. Peut-être parce qu'ils occupent une place centrale et partagent davantage le quotidien. Mais d'autres études disent aussi que le chien de propriétaire très entouré socialement serait plus heureux. Car ils s'intègrent dans un réseau affectif élargi. Ils ne servent pas à combler un manque, ils deviennent en fait un membre à part parmi d'autres dans un cercle plus large. Et finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui, du spa pour chat aux pâtisseries pour chat, raconte quelque chose de plus profond. Nos animaux ne sont pas seulement des travailleurs ou des gardiens, ils deviennent des miroirs affectifs. Ils reflètent nos besoins, nos angoisses, nos envies de douceur. Ils occupent un espace émotionnel important dans un monde qui file à toute vitesse et qui nous laisse parfois un peu seuls. Alors oui, on peut sourire en voyant un chien sortir d'un bain moussant dans un hôtel pour animaux. On peut se moquer gentiment des chats qui mangent de la nourriture à base de thon sauvage préparée sur un caviar. Mais derrière ces images, il y a tout un rapport à l'affection, à la vulnérabilité, à la construction même de nos liens sociaux. Il y a aussi un besoin d'aimer et d'être aimé d'une façon très simple, sans attente, sans jugement. Et cela, c'est peut-être ce qui explique le mieux pourquoi nos animaux occupent une place si forte dans nos vies.
Alors, merci beaucoup, Romain. Je savais même pas qu'il y avait un spa pour chiens à Sherbrooke.
Ah ben moi non plus, j'étais surprise, oui.
Mais c'est cool, parce que les gens, de toute façon, les gens, ils aiment trop leurs chiens, leurs chats et tout. Moi, par exemple, j'ai peur des chats.
Ah oui? Je peux comprendre, moi aussi, j'ai peur. Je me suis déjà fait griffer, donc...
Donc je préfère les chiens aux chats, genre, littéralement. Donc, je te comprends tellement. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. On remercie Romane. On se voit la semaine prochaine.
De rien, avec plaisir. À la semaine prochaine.